Comme vous savez, Balaam, c'était un prophète, un devin de son époque. Et Israël, dans cette époque, elle a marché du désert, elle allait vers la terre promise. Or, Balak, le roi des Moabites, ne voulait pas se faire tuer par les Israélites. Pour ceux qui ne savent pas, la terre promise, cette promesse de Dieu aux Israélites, c'était surtout une promesse de victoire d'une terre qui était déjà habitée. Donc, Israël, dans sa démarche pour aller dans cette terre qui a été promise par le Seigneur, a dû lutter, combattre pour réussir à avoir ce que Dieu les avait promis. Or, Balak, le roi des Moabites, qui a entendu l'histoire d'Israël, qui a entendu toutes les victoires qu'Israël avait conquises, il a eu peur. Et donc, il a fait appel à un prophète, à Balaam, pour demander à lui, voilà, de maudire Israël. Or, la première tentative, le prophète a cherché le Seigneur et le Seigneur a dit non. J'ai béni ce peuple. Or, vous ne pouvez pas maudire ce que j'ai béni. Les envoyés du roi sont retournés avec cette réponse. Le roi n'était pas content. Alors, il a envoyé encore plus d'argent, encore plus de personnes importantes pour parler à Balaam. Et la deuxième fois, Balaam dit, mais Seigneur, quand même, voilà, laisse-moi aller. L'Éternel lui a répondu, vas-y, mais dis seulement ce que je vais te dire. Dans le chemin, l'âne de Balaam, ou l'ânesse, selon certaines traductions, s'arrêtait au milieu du chemin. Il s'arrête une première fois, il détourne le chemin, il est déjà mécontent, il frappe dans sa haine, dans sa âne. Elle va dans un deuxième chemin et là, elle détourne le chemin encore une deuxième fois et une troisième fois, elle s'arrête. Et là, j'aimerais lire ce que le dialogue entre l'âne et Balaam. Nombre, verset 22, chapitre 22, verset 28 au 35. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par trois fois ?» Balaam lui a répondu, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Ah, si j'avais une épée sur la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, ne suis-je pas ton ânesse qui te sert des montures depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi? Et il répondit, non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Désolé. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégayée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre la terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par trois fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à trois reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je me retournerai. L'ange de l'Éternel lui dit, va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les mots, les paroles que je te dicterai. Le texte va continuer, il va dire que trois fois devant Balak, Balaam va essayer de maudire quand même, mais les paroles d'Éternel, c'était des paroles de bénédiction. Et voici la fin de la troisième parole de bénédiction. Les voici couchés comme un lion, au repos comme un lion, qui le fera lever. Si est béni, c'est lui qui te bénit. Il est maudit, c'est lui qui te maudit. Il sera béni, c'est lui qui bénit Israël, et maudit, c'est lui qui maudit Israël. Ce texte, pour moi, il est très intéressant. On pourrait retirer pas mal des enseignements sur ce texte, mais ce matin, je vais me fixer sur deux enseignements que je vois sur la parole de Jésus, sur ce texte, sur ce récit, voilà, de Balaam, qui va dialoguer avec sa âne ou sa ânesse. Le premier, c'est que l'âne représente les moyens dont Dieu va utiliser pour nous raisonner quand nous nous trouvons en dehors de sa volonté. L'âne, c'est la représentation de ceux et celles que Dieu va utiliser pour nous raisonner, pour parler avec nous, quand nous sommes en dehors de sa volonté. Il arrive une chose avec l'être humain, et Jésus va parler ça en Matthieu chapitre 6, verset 21, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Là sera notre cœur. Et la question que nous devons nous poser, c'est où est notre cœur? Le cœur de Balaam n'était pas à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu va barrer sa route. C'est parce que dans ses intentions, il n'avait pas l'intention de répéter les paroles du Seigneur, mais il regardait plutôt les bénéfices que la malédiction qu'il allait faire contre la volonté de Dieu allait apporter sur sa vie. Le cœur de Balaam, alors, n'était pas pour faire la volonté de Dieu, mais c'était pour lui-même. Peut-être par l'insistance du roi, peut-être qu'il a eu peur du roi qui insistait de sa présence, peut-être qu'il était gêné de dire toujours non à la demande, peut-être qu'il a regardé les trésors qui lui a été apportés. On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais ce que le texte nous dit, c'est qu'il a pris une décision à la légère. Il a pris une décision contre la volonté de Dieu. Cette haine, alors, représente ça. Dieu barre la route, mais lui, le prophète de Dieu, ne réussit plus à voir ce que Dieu est en train de faire. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a une ironie qui est posée là. Le prophète qui a entendu la voix du Seigneur pour deux fois dans le texte n'arrive pas à voir l'action de Dieu, tandis qu'une âne, une ânesse, un animal qui ne parle même pas, voit la direction que Dieu veut donner. Voit la route qui est barrée par le Seigneur. Combien des ânes et des ânesses Dieu peut utiliser dans notre vie pour nous dire, voilà, ce que vous faites, ce n'est pas de ma volonté. Combien des actions Dieu peut faire pour changer notre route. D'ailleurs, dans ces versets que je viens de lire, de Matthieu 6, ensuite il va parler des yeux malades, parce que le cœur est malade. Et si notre cœur est malade, si notre cœur n'est pas dans la volonté de Dieu, or, nos yeux sont aussi malades. Et on n'arrive pas à voir ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. J'ai mis ce titre parce que parfois, quand nous avons notre cœur dans quelque chose, ceux et celles qui essayent de nous raisonner au contraire, on tient comme quelqu'un qu'on déteste. Qu'on déteste. Sur mon Facebook, quelqu'un a mis un petit vidéo d'une adolescente qui frappait sa mère parce qu'elle voulait aller à une fête et sa mère a dit non. Ça m'a choqué. Et parfois, ce n'est pas notre mère, mais c'est les gens qui nous aiment. Un exemple, très souvent, c'est nos jeunes et les filles et les garçons quand ils sont passionnés pour quelqu'un. Même si on dit, si on voit que ce n'est pas bien pour lui, si on le dit non, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'un adolescent va nous écouter? C'est difficile. Parce que où est son cœur? Là, c'est son trésor. Où est notre cœur? Là, c'est notre trésor. Où est notre cœur? C'est là qu'on va faire tout pour y arriver. Et peut-être on peut devenir comme Balaam. On n'écoute plus le Seigneur. La seule chose qu'on écoute, c'est notre cœur. C'est ce qu'on veut. Donc la première parole que nous avons, c'est faisons attention aux pistes, aux paroles, aux personnes qui nous disent quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous désirons. Parce que Dieu peut-être que Dieu essaye de nous parler pour nous raisonner à sa volonté. Peut-être que la première réaction, c'est une réaction négative, mais mettons ça au Seigneur. Au lieu de frapper, parce que lui, sa réaction, c'est la réaction de quelqu'un qui est en colère. Ce qui est intéressant dans le dialogue avec la haine, c'est que la première chose que la haine va lui demander, c'est « Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai fait d'incorrect ?» Et là, elle va dire une vérité, mais ça fait des années que je suis avec toi, ça fait des années que je te sers, ça fait des années que je suis fidèle à toi. Combien de fois je fais ça avec toi? Dans ce chemin, la première chose qui nous arrive, c'est que quand quelqu'un vient contraire à l'encontre de ce que nous désirons, de ce que nous voulons, la première réaction, c'est cette réaction de « Pourquoi tu veux me barrer? Pourquoi tu ne te réjouis pas avec moi dans ce que je suis en train de faire ?» Mais on oublie tout le passé. On se concentre dans un moment précis. Or, si nous regardons l'histoire, on s'aperçoit parfois que ces personnes, que ces choses qui nous arrivent ne révèlent pas une infidélité, mais au contraire, une fidélité. J'ai toujours eu ça dans mon cœur, qu'un ami, un véritable ami, c'est celui qui nous parle la vérité, même quand ça fait un peu mal. Quand ça fait un peu mal. Mais à nous d'écouter ce que Dieu veut faire à travers notre vie. Et parfois, notre chemin tracé pour nous, même si notre désir est positif, s'il est contre la volonté de Dieu, au lieu d'être une bénédiction, ça peut devenir une malédiction. Au lieu de bénir les personnes à qui nous aimons, ça peut mettre au travers les relations. Regardons, écoutons d'abord ce que Dieu va nous faire. Et pour cela, je vous conseille, quand quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de tes désirs, de tes pensées, mets ça devant le Seigneur et demande à lui pourquoi, Seigneur, cette parole dans ma vie. Pourquoi, Seigneur, je suis en train de tracer cette personne que j'aime et qui m'aime, pourquoi elle est contraire à moi? Je vais vous raconter mon expérience, juste un petit témoignage. Je me rappelle que quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, ma mère, elle détestait Diane. Mais au point d'un jour, Diane, elle m'appelle, elle décroche le téléphone. Et je me rappelle que moi, j'étais chrétien, je voulais bien sûr fréquenter une fille, mais je voulais aussi que ma mère apprécie la personne que j'appréciais, quoi. Donc, je commence à prier au Seigneur. Moi et Diane, on dit, on va prier d'abord, parce que si ma mère n'est pas d'accord, je ne vais pas te fréquenter. Alors, je me rappelle que j'ai prié pendant 3 mois, et 3 mois, ma mère détestait Diane, et pendant 3 mois, j'étais là, Seigneur, est-ce que c'est bien la fille que tu veux pour moi? Je ne veux pas désobéir à ma mère. Aide-moi, je l'aime. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai travaillé dans un banque. Une banque. Et je me rappelle qu'un jour, je me suis disputé avec ma mère le matin à cause de Diane. Et j'étais à la banque, j'étais en train de travailler et moi, j'ai travaillé dans la vente des crédits. Alors, j'y allais devant l'agence. J'ai devais parler avec les gens qui passaient pour parler des crédits, etc. J'essayais de vendre. Et je me rappelle que le monsieur, il était ivrogne, mais il marchait comme ça. Tu vois, il venait comme ça. Et ce monsieur-là, il m'a pris avec les mains. Je vais vous montrer. Jacques, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux te lever? Je vais vous faire l'exemple. Alors, Tu fais moi. Alors, fais un peu comme ça. Voilà. Très bien. Alors, ce monsieur-là, il était ivrogne. Il m'a dit, il m'a pris dans mes bras, il m'a dit, écoute, va et consulte tel texte biblique. Il m'a donné un texte biblique. Et là, j'ai dit, ok, je vais le lire. Il m'a pris, il m'a dit, tu dois lire le texte tel. Merci, Jacques. Il m'a dit, mais tu vas lire. J'avais dans mon casier, une petite Bible, je suis allé sur le texte qu'il m'a donné, et il était écrit, cette terre qui est devant toi, je te donne par héritier. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux bien que ça soit Diane, mais tu sais, je ne vais rien faire si ma mère ne change pas. Je me rappelle, quand je suis rentré à la maison, ma mère, elle m'a dit, écoute, Thiago, invite Diane, je vais faire une lasagne pour elle dimanche. Et à partir de là, Diane, elle est devenue une fille pour ma mère. Elle est devenue une fille pour ma mère. Quand quelque chose est contraire au projet, aux paroles qui tout entreprend, la première chose, mets ça devant le Seigneur. Il demande à Dieu de vous guider. Deuxième chose que j'aimerais bien parler de ce texte, c'est la vérité que le prophète va nous dire dans le verset 29. Ça s'est bloqué. Le verset 29. Et dans le verset 29, quand il va parler de la prophétie qu'il avait, il faut sortir et entrer à nouveau. Anesque, et après tu reviens. Merci. Voici couché comme un lion, au repos comme un lion, qui le fera lever. Il est béni, c'est lui qui était béni. Il est maudit, c'est lui qui était maudit. La deuxième vérité que j'aimerais bien parler ce matin, c'est que si Dieu nous bénisse, personne ne pourra nous maudire. Si Dieu est pour nous, Romains 31-32, si Dieu, qui dirait de plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Si Dieu nous bénit, personne ne pourra nous maudire. Ça, c'est une vérité biblique. Si Dieu est pour nous, personne ne pourra s'opposer à ce que Dieu a pour notre vie. Si Dieu est pour notre projet, personne ne pourra s'opposer au projet que Dieu a de notre vie. Une fois, quand j'étais à la faculté théologique, j'avais un professeur qui avait dit, « Mais écoute, même le diable ne peut pas nous arrêter. Le diable ne peut pas aller contre nous si nous sommes dans la volonté de Dieu. » Et pour nous expliquer, il nous a montré. Regardons ici dans la salle. Vous regardez la taille que nous avons ici de notre temple? Vous arrivez à regarder cette petite tache qui est là? Ça, c'est le diable. Ça, c'est Dieu. Si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Si Dieu bénit ce que nous sommes en train de faire, personne ne pourra s'opposer. Mais qu'est-ce qui arrive quand un projet ne va pas? Qu'est-ce qui arrive quand quelque chose nous empêche de faire? La première parole, c'est est-ce que la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, même si c'est une très bonne chose, même si toutes les choses se justifient en elles-mêmes, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je le fasse? Regardons Paul, quand Paul était dans la mission que Dieu l'avait donnée. Et en acte, il va nous dire que pour plusieurs fois, Paul va essayer une chose, il ne va pas arriver. Il va essayer une autre chose, il ne va pas arriver. Jusqu'au jour que Dieu va le révéler où il doit aller. Parfois même la mission que Dieu nous a donnée, les choses que nous entreprenons pour cette mission, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'y fasse. Donc la première question que nous devons nous poser est, est-ce que ce que j'ai fait, c'est vraiment la volonté de Dieu? La deuxième question que nous devons nous poser, c'est la volonté de Dieu, ok? Mais est-ce que c'est le temps de Dieu pour ça? Vous voyez, le temps, parfois, c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas le moment que Dieu veut que ça se fasse. C'est la volonté de Dieu, mais peut-être que Dieu veut que nous attendons. Il veut peut-être ralentir les choses pour nous enseigner, pour nous aider. Je me rappelle d'une sœur qui priait tous les jours pour son mari. Son mari était ivrogne. Il était, il buvait beaucoup d'alcool. Alors, cette femme, tous les jours, toutes les réunions de prière, tous les moments, elle a prié, elle a demandé au Seigneur, « Seigneur, je veux que mon mari lâche l'alcool, qu'il soit guéri de tout ça. » Et tous les jours, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Un jour, son mari a été pris par la police Et à force, il était amené à un centre de traitement et il a lâché. Il a laissé de côté l'alcool, il a changé sa vie. Or, cette femme, elle s'est divorcée de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait plus lui tel qu'il avait changé. Parfois, nous demandons quelque chose du Seigneur. Parfois, notre volonté, elle est justifiée. C'est quelque chose de positif. Mais il y a des moments que nous ne sommes pas prêts à recevoir la bénédiction ou les choses que nous demandons au Seigneur. Donc, la deuxième question que nous devons nous poser, c'est est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le moment de Dieu pour que ça se réalise dans ma vie? Troisième question, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une affirmation. Parfois, Dieu veut qu'on soit comme on est, tout simplement. Parfois, on veut faire des grandes choses au Seigneur, on veut réaliser, on veut que les choses arrivent, mais Dieu veut nous utiliser dans ce que nous sommes. Prenons l'exemple du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 va nous parler de rencontre entre le prophète et le Seigneur. Et dans ces rencontres, Ésaïe, il voit toute la grandeur et les splendeurs de Dieu l'Éternel. Il voit les anges qui volent à côté du Seigneur. Et la demande du Seigneur à Ésaïe, c'est « Qui ira pour moi ?» Ésaïe, devant toute cette splendeur du Seigneur, me dit, mais voici, envoie-moi. C'est magnifique cette expérience d'Ésaïe. Mais la suite nous fait réfléchir. Je vais t'envoyer à parler à un peuple qui ne va pas t'écouter. Vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un qui ne t'écoute pas. Je sais que Joanna fait tous les jours ça. Comme institutrice, voilà. C'est... Voilà. Le ministère que Dieu avait pour le prophète Ésaïe, c'était pas le ministère de la grandeur, de beaucoup de choses qu'il allait faire. Il n'allait pas transformer Israël, mais il allait apporter la parole du Seigneur à des gens qui étaient infidèles. Le ministère que Dieu a donné à Ésaïe, c'était un ministère de fidélité, de rester fidèle au Seigneur et d'apporter la parole du Seigneur à ceux et celles qui étaient infidèles, à ceux et celles qui n'allaient pas écouter ce qu'il allait dire. Or, parfois, ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive dans notre vie. Même si on réfléchit à des choses grandioses, même si notre cœur envie à des choses plus grandes, même si nos rêves nous amènent à faire des choses merveilleuses pour le Seigneur, parfois, le résultat n'est pas ce que nous attendons. Parfois, Dieu veut simplement toucher une personne. Parfois, Dieu vont nous utiliser dans des choses, dans des situations que nous n'envisageons pas à le faire. Mais si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? La vraie question, c'est la volonté de Dieu ne peut pas être contrariée. Nous pouvons nous décourager. Nous pouvons nous décourager de ce que Dieu nous avait promis. Regardons le peuple quand il sort de la terre promise. Ce qui se passe dans sa vie, c'est que Dieu avait préparé des grandes choses pour le peuple. Quand ils arrivent devant la terre promise, ils ne vont plus regarder ce que Dieu avait parlé. Ils vont regarder la taille des gens qui étaient devant eux. Ils vont regarder la taille des difficultés qui étaient posées pour qu'ils puissent conquérir ce que Dieu avait donné pour eux. Et qu'est-ce que le peuple va décider? On ne va pas arriver. Ils n'ont pas foi dans Dieu, mais ils ont peur de ne pas arriver et ils retournent au désert pendant 40 ans. Toute une génération était tuée parce qu'ils n'ont pas continué dans la voie que Dieu les avait donnée. Balaam va avoir ses yeux qui vont être ouverts par un ange qui va le raisonner. Enfin, Balaam, il va écouter ce que Dieu avait parlé. Après toute cette histoire, trois fois que Dieu va essayer de raisonner à Balaam, dans la troisième, l'ange va dévoiler ses yeux et il va discuter, il va voir quel est le projet du Seigneur. Et le texte nous parle que devant le roi Balak, Balaam va prier, il va chercher la volonté de l'Éternel et au lieu de maudire, il va bénir. Trois fois. Pour finir, je voulais revenir à ces trois fois. Trois fois Dieu l'arrête et après trois fois il va bénir Israël. Dans la tradition hébraïque, la répétition d'une chose, elle montre l'intensité de cette chose. Ok? Quand on dit, quand on voit dans les psaumes, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, ce n'est pas une référence, même s'il y a quelques-uns qui font cette symbolique. Vont regarder de façon symbolique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, la tradition judaïque, elle est en train de parler que Dieu, il est très saint. Saint, 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 il est beaucoup saint. Or, dans cette image, trois fois Dieu va l'arrêter. Mais après, trois fois, Dieu va utiliser la vie de Balaam pour bénir Israël. Quand Balaam va revenir à la volonté du Père, quand Balaam va enfin regarder pas son désir, mais ce que Dieu va faire, Dieu va l'utiliser trois fois pour bénir Israël. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne bénissons pas seulement nous-mêmes, nous bénissons tous les autres qui sont à notre côté. Dieu ne nous utilise pas que pour nous bénir. Dieu nous utilise pour bénir à d'autres. Et la bénédiction de Dieu se multiplie dans notre vie. Quand nous sommes dans la volonté du Père, la bénédiction du Père se multiplie dans notre vie. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas aux anciens, ce n'est pas aux frères et sœurs de nous dire si nous sommes dans le bon ou dans le mauvais chemin. Ce que nous pouvons faire, c'est dire ce que Dieu met dans notre cœur. Et c'est à Dieu de nous dire si nous sommes dans la bonne volonté. Et c'est à nous d'écouter au Seigneur quand il nous parle. C'est vrai, il peut utiliser nos frères et sœurs. C'est vrai, il peut même utiliser une haine des pasteurs. Mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et si nous entendons ce que Dieu a à nous dire, nous serons dans les bénédictions de Dieu pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, ce matin, je te remercie pour cette parole. Cette parole qui nous appelle que quand nous sommes dans ta volonté, personne ne pourra nous arrêter. Quand nous sommes dans ta volonté, Père, les choses qui arrivent dans notre vie viennent pour notre bénédiction et pour les bénédictions des autres qui font partie de notre vie. Alors, Père, je te demande à moi d'abord, aide-moi à ne pas seulement écouter ce qui est dans mon cœur, mais à écouter ce qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église à ne pas seulement faire entendre notre propre volonté, mais à écouter ce que Dieu a à nous dire. Dévoile nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir, non avec les yeux matériels, non avec les choses qui sont là, visibles, mais à regarder avec les yeux de la foi ce que toi, Seigneur, es en train de faire. Merci, Père. Au nom de Jésus.